earthworms down the staircase. I send worms to get to be able to send worms, to send worms. Perhaps I set you too free, too fast, too young.
But the intentions were pure.
En temps universel, 7h à Paris, 8h à Beyrouth.
Marion Cazanov.
Et Nemo en piste pour le journal. Bonjour Nemo.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Le Moyen-Orient se réveille pour un 7e jour de guerre consécutif.
Avec de nouvelles frappes israéliennes cette nuit sur le Liban, où l'État hébreu harcèle les responsables du Hezbollah, dans la banlieue sud de la capitale notamment. Et sur l'Iran, où l'armée israélienne enclenche une nouvelle étape de son offensive et promet des surprises très prochainement. Nous appelons dès le début de ce journal nos correspondants à Beyrouth et à Téhéran. Tous les derniers développements du conflit dans un instant. À suivre également la colère des familles de Kenyans attirées en Russie pour combattre au front. Et la politique en France a un peu plus d'une semaine des municipales. Reportage en terre communiste convoitée par l'extrême droite.
Une nuit rythmée par les bombardements pour les habitants de Beyrouth.
Notamment pour les habitants de la banlieue sud de la capitale libanaise, considérée par Israël comme le bastion du Hezbollah. Un peu plus tôt, l'État hébreu avait lancé un ordre d'évacuation à chacun de ses 700 000 habitants, provoquant un exode massif et désordonné de la population. À Beyrouth, où l'on vous retrouve, Paul Khalife, bonjour.
Bonjour Nemo, bonjour tout le monde.
Paul, l'armée israélienne a donc mis à exécution sa menace de bombarder massivement la banlieue sud de la ville.
Oui, après une angoissante attente qui a duré 8 heures, l'aviation israélienne a commencé à pilonner violemment peu avant minuit la banlieue sud, devenue une ville fantôme. Les chasseurs bombardiers et les drones israéliens ont lancé jusqu'aux premières lueurs de l'aube 12 raids, tirant à chaque passage plusieurs missiles. Les puissantes déflagrations ont résonné dans toute la capitale et ses banlieues. Près de 2 millions de Libanais ont passé leur pire nuit depuis le début de cette guerre. L'aviation israélienne n'a pas chômé ailleurs. Deux grandes bourgades du nord de la plaine de la Beka ont été bombardées après des appels à l'évacuation qui ont aussi englobé la cité portuaire de Tyr et la ville de Bint Ishbael dans le sud du Liban.
Et avant ces frappes, le ministère de la Santé faisait état d'un bilan de 123 morts depuis lundi. Paul, le site américain spécialisé dans les questions de défense Axios assure que plusieurs dizaines d'officiers des gardiens de la révolution iranien ont quitté Beyrouth au cours des dernières 48 heures par crainte d'être ciblés. Cette information a-t-elle pu être vérifiée?
Cette nouvelle coïncide en tout cas avec l'ordre donné jeudi par le gouvernement libanais aux services de sécurité d'arrêter toute personne liée aux gardiens de la révolution iranien. Les autorités ont également réinstauré le système des visas aux ressortissants iraniens souhaitant se rendre au Liban. Ces mesures extrêmes visent à enrayer l'escalade initiée par Israël. Israël qui avait lancé mardi un ultimatum, il faut le rappeler, de 48 heures au personnel diplomatique iranien présent au Liban, menaçant de les prendre pour cible. L'Iran avait menacé de riposter en attaquant les ambassades d'Israël dans le monde si sa chancellerie était prise pour cible à Beyrouth. Le vaste complexe de l'ambassade iranienne situé à la lisière de la banlieue sud de Beyrouth est aujourd'hui presque désert.
Paul Khalife à Beyrouth pour RFI, merci. Je précise que le Hezbollah libanais a publié un avertissement en hébreu aux habitants des villes du nord d'Israël situées à 5 km au moins de la frontière, prévenant, je cite, que l'agression israélienne ne resterait pas sans réponse. Le groupe chiite qui revendique cette nuit des tirs tirs de roquettes et d'artillerie vers l'État hébreu.
Israël a également et une nouvelle fois visité Téhéran cette nuit.
Où se trouve notre correspondant Siavosh Gazi? Siavosh, vous avez vous aussi enregistré de nouvelles frappes alors que la guerre entre dans son 7e jour?
Absolument, les frappes ont commencé à 5h30 heure locale et ont visé les quartiers du centre de la capitale iranienne, contrairement à hier où c'était plutôt les quartiers périphériques où il y a de nombreuses installations militaires qui avaient été visées. Dans ces quartiers du centre de Téhéran, notamment donc l'avenue Jomouri, la place Hor, il y a quelques bases militaires, mais il y a aussi beaucoup de postes de police ou d'immeubles d'habitation résidentiels qui se trouvent, et donc il y a des frappes importantes qui ont eu lieu sur ces quartier-là, jusqu'à un quartier plus loin, Tehran Post, ou encore Haftoz, ou Youssefabad, qui sont vraiment des quartiers où vivent des classes moyennes, avec beaucoup d'immeubles résidentiels qui datent d'il y a 50 ans, par exemple, qui ont été visés. À chaque fois, en plus, si par exemple un poste de police ou un commissariat est visé, à côté, il y a toujours des immeubles résidentiels qui sont bien évidemment touchés. Donc, on peut s'attendre à des victimes civiles également, encore plus nombreux aujourd'hui par rapport au jour dernier. Et il y a eu également aussi des frappes, par exemple, contre la ville de Ispahan, Shiraz, la ville de Karaj et la ville de Qom de ce matin. Des frappes très très importantes depuis 5h30 du matin.
Et Siavosh, dans sa contre-offensive, Téhéran dit vouloir passer à la vitesse supérieure?
Absolument, le général Naimi, qui est le porte-parole des gardiens de la révolution, a affirmé que l'Iran allait utiliser des armes plus développées, plus destructrices. Donc à partir d'aujourd'hui, selon un autre porte-parole des gardiens de la révolution, l'Iran a utilisé depuis le début de la guerre jusqu'à hier soir quelques 2000 drones d'attaque et 600 missiles, notamment le missile Khorramshahr 4 qui a été utilisé pour viser l'aéroport de Tel Aviv, mais aussi une base américaine à Bahreïn et aussi une autre base au Qatar. C'est un missile avec une tête à fragmentation. Donc ça veut dire qu'il y a, lorsque la tête, la partie donc supérieure du missile arrive près de la cible, sa tête éclate et il y a 80 sous-têtes qui frappent une zone beaucoup plus large et donc qui est un missile beaucoup plus destructeur que les missiles utilisés jusqu'à maintenant.
Siavosh Gazi à Téhéran pour RFI. Merci. L'armée israélienne dit frapper l'infrastructure du régime quand le chef d'état-major a annoncé une nouvelle phase de son opération, promettant que d'autres surprises étaient à venir sans évidemment les dévoiler. Une guerre qui perturbe fortement le trafic aérien. Des milliers de touristes sont notamment bloqués en Asie ou en Europe, bien souvent empêchés de faire escale à Doha, Dubaï ou encore à Abu Dhabi. Il y a ceux également qui sont coincés au Moyen-Orient. 750 Français ont déjà été évacués d'après le ministère des Affaires étrangères. 5000 autres ont exprimé leur souhait d'être rapatriés, dont beaucoup coincés en Israël. De notre envoyé spécial à Tel Aviv, Julien Chavanne.
On retrouve Elodie dans le lobby de son hôtel face à la mer. Au départ, cette Marseillaise voulait faire découvrir le pays à ses enfants de 4 et 5 ans, mais les vacances ont viré à la galère. Et ce n'est que 6 jours après le début de la guerre qu'elle a enfin reçu un mail de l'ambassade française.
En nous indiquant que la solution pour rentrer en France était de passer par l'Égypte ou la Jordanie.
Et ça, c'est envisageable pour vous ?
Non, absolument pas, parce que je me sens pas de faire ce trajet avec mes enfants. J'estimais en tout cas faire partie quand même des personnes prioritaires, compte tenu du fait que j'ai des enfants quand même très petits.
Déçus par les autorités françaises, Elodie et son mari ne sont pas inquiets pour autant pour leur sécurité. Ils n'hésitent pas à profiter de la plage pour occuper les enfants, mais l'attente devient pesante.
Ça devient un peu compliqué. On est sollicité systématiquement par les alarmes et les enfants, et c'est vrai que là, la fatigue commence à se faire sentir.
La compagnie aérienne Transavia leur a proposé un vol mardi prochain. Elodie a besoin de croire que ce sera la bonne.
J'ai cette optique de pouvoir rentrer. Si j'ai pas de visibilité sur le fait de rentrer, je pense que oui, on pourrait craquer complètement.
En attendant, la famille de son mari va les accueillir tous à Ranana, à quelques kilomètres d'ici. Julien Chavanne, Tel Aviv, RFI.
Et concernant les derniers développements de la nuit, sachez que le Qatar a fait savoir qu'il avait intercepté une attaque de drone visant la base américaine d'Al Udeid, plus grande installation militaire des États-Unis au Moyen-Orient. Le ministère de la Défense en Arabie Saoudite dit aussi avoir intercepté 3 nouveaux drones à l'est de Riyad. Et puis les États-Unis de Donald Trump qui se disent intéressés par une offensive des milices kurdes iraniennes contre le pouvoir de Téhéran. Le président américain qui dit vouloir être impliqué dans le choix du successeur d'Ali Khamenei, le guide suprême tué dans des frappes le week-end dernier, Donald Trump, qui rejette en revanche catégoriquement l'option Mojtaba Khamenei, fils du défunt Ayatollah. Vous suivez l'évolution de la guerre au Moyen-Orient sur notre site internet RFI.fr.
On vous en parlait récemment sur nos antennes de ces plus de 1000 Kenyans qui auraient été recrutés au sein des forces armées russes pour combattre en Ukraine.
Des chiffres avancés par les services de renseignement kenyans. Les raisons de ces départs sont multiples, mais ce sont bien souvent des promesses de salaires mirobolants qui ont attiré les concernés, à qui on promettait des postes de chauffeur ou d'agent de sécurité, mais qu'on a finalement envoyé au front. Les proches de dizaines d'entre eux se sont donc réunis ce jeudi dans le centre-ville de Nairobi pour réclamer des réponses. C'est un reportage d'Alban Tiroir.
« Ramenez-nous nos fils », c'est ce qu'ont demandé les familles sans nouvelles de leurs proches en Russie. Suzanne Kouloba est venue avec des photos de son aîné, David. Il s'était vu promettre un emploi d'agent de sécurité, dit-elle. Il a fini par être déployé sur le front russo-ukrainien. Suzanne a été informée par un autre Kenyan qu'il aurait été tué. Sa dernière communication remonte à octobre.
Il m'a envoyé cette photo. On le voit en uniforme militaire. Il avait peur, mais que pouvait-il faire? Il m'a dit que s'il refusait, le commandant le tuerait lui-même. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est qu'on me rende mon fils. S'il est en vie, s'il est mort, qu'on me le rende aussi. Attendre sans savoir où il est, c'est terrible.
Janet Wainana, elle, est venue pour son frère Samuel, parti aussi, selon elle, pour un emploi d'agent de sécurité.
Nous nous sommes rendus à l'ambassade de Russie, à l'ambassade d'Ukraine, au ministère en charge de la diaspora, aux affaires étrangères. Personne n'est en mesure de nous apporter des réponses. Nous voulons que notre gouvernement discute avec le gouvernement russe pour obtenir des réponses.
Les manifestants ont déposé une pétition auprès des autorités, les appelant à plus d'actions. Parmi leurs demandes, le rapatriement de leurs proches et une déclaration officielle interdisant les recrutements au sein de l'armée russe. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Et le ministre des Affaires étrangères avait annoncé vouloir se rendre en Russie ce mois-ci pour évoquer ses recrutements. La semaine dernière, un des acteurs clés, on vous en parlait également, un des acteurs clés présumés d'être au cœur des réseaux de recrutement avait été arrêté.
À Radio France Internationale, il est 7h11 à Paris, un peu moins de 10 jours avant les municipales en France.
Le premier tour, c'est dimanche prochain, le 15 mars, à Paris, l'ancienne ministre de la Culture, Rachida Dati, appelle à un rassemblement immédiat de la droite et affirme ne pas pouvoir faire alliance avec la candidate reconquête Sarah Knafo entre les deux tours.
Alors que certains bastions communistes sont menacés par l'extrême droite.
Oui, beaucoup se trouvent dans l'ancien bassin minier du nord de la France, à Avion notamment, commune de 18 000 habitants, où un certain Joël Bernard s'est invité dans la bataille. Reportage sur place de Victorien Viaume.
Dans le QG de campagne du maire sortant, on se prépare à tracter sous le soleil.
Allez, la journée est belle.
Équipe souriante comme le maire Jean Létocard. Le Parti communiste et Avion, ça fait bientôt 100 ans que ça dure et le maire ne voit pas de raison que ça change.
Effectivement, on pourrait penser qu'il y a une liste Front National qui vient d'arriver et qui pourrait nous embêter. En réalité, c'est une liste qui tient sur à peine quelques familles.
Jean Létocard n'hésite d'ailleurs pas à attaquer son adversaire RN croisé par hasard sur le marché.
Vous ne répondez pas, monsieur Bernard.
Mais monsieur, je ne suis pas à votre disposition, moi. Je n'ai pas à débattre avec vous.
L'on suit une autre route que... Sur un mur et dans les rues du centre-ville. Mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qu'il voulait être. Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots, où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même beau. Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. viens de la terre du milieu, où y'a plein de petits vieux, où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux, où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je viens de la classe moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place. Julien Clerc dans le monospace, je freestyle dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi, mais il fait quand même beau. Chez moi y'a du soleil 40 jours par an. Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre. Je regardais par la fenêtre enfermée dans ma chambre. Je priais pour la fin de l'averse et aller faire de la rampe. Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé. Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller. Trempé, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer. Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau, il fait beau.